C'est pas facile hein, d'accès parce que très rapidement on s'éloigne de la route. Et là, on a, moi, ce que je considère comme la partie la plus sauvage de la Drôme, qu'on peut aller jusqu'au saut du Chalard, là, à pied. Voilà, il y a quelques heures de marche quand même, mais c'est très beau. Donc, c'est une rivière. Jusqu'à Saint-Pardoux, on est vraiment sur le socle acide, quoi. On est sur des schistes, là. Donc, là on est dans le Limousin. On est dans le Massif central, quoi. Et du coup, ça donne une végétation super belle. Et notamment, il y a une plante que j'adore, moi, qui est l'osmonde royale, qui est la grande fougère qu'on voit là, les touffes avec les frondes qui sont sèches, là, qui sont rouges. Et d'ici un mois et demi, on va avoir les crosses qui vont sortir. Et on en aperçoit quelques-unes de crosses là. Et c'est vraisemblablement la plus belle fougère française. C'est des trucs qu'on retrouve en Bretagne, qu'on retrouve dans tous les pays granitiques. Et un peu plus haut, là, dès qu'on s'enfonce un petit peu dans le vallon, donc ça devient carrément plus accessible, là, c'est le jardin. Ça fait des endroits absolument merveilleux, quoi. D'où l'idée de classer cette rivière au label rivière sauvage, hein, où il y a très peu de rivières françaises hein, qui y ont droit. Hein. La première, c'est la Valserine, dans le département de l'Ain.
Ah oui.
Moi, c'est une rivière que j'ai pêchée aussi. C'est des endroits chaos. Là, c'est une rivière beaucoup plus accessible, mais du fait de l'absence d'accès direct aux berges très rapidement, là, ça en fait un endroit merveilleux, quoi, hein, tout en enfoncé là au milieu des bois. Et elle est très très belle, quoi. C'est une rivière où la loutre est revenue très facilement. Il y a plein de choses intéressantes, quoi. Et il y a des belles truites sauvages. Là, c'est une rivière où on peut encore prendre des belles truites à la mouche au mois de juin.
Ce n'est pas des truites relâchées pour...
Alors, ils en remettent, hein, parce qu'il faut contenter les pêcheurs, mais très rapidement, elles disparaissent. Hein. Les loutres s'en chargent. Et par contre, derrière, il y a une population habituelle de truites sauvages. Alors, avec une souche spécifique, hein, il y a une souche spécifique génétique Drôme Call.
Ah bon ?
Et oui, qui existe. Et là, la Fédération de pêche s'en est rendu compte. Et donc, ils font l'effort de faire un travail de multiplication des truites. Donc, ils récupèrent des adultes géniteurs de la souche Drôme Call. Ils élèvent les œufs et puis ils remettent en place ce qu'on appelle des alevins vésiculés qui correspondent à la souche. Mais de toute façon, il y a encore mieux que ça. Il y a des ruisseaux comme le Manet qui font vraiment ruisseau pépinière. C'est-à-dire qu'il y a encore des frayères sauvages et là, c'est bien plus efficace, quoi. Si on remet en état les frayères naturelles dans une rivière, on est beaucoup plus efficace que n'importe quelle remise à l'eau, quoi.
Et c'est quoi une frayère ?
Ben, c'est des lieux où il y a le fond de la rivière a une granulométrie particulière. Une qualité des eaux qui permet effectivement aux truites de se reproduire. Alors on les voit, hein, il suffit de venir là au mois de janvier et on voit les frayères.
On en aura où il y a moins de courant aussi.
Alors c'est des trucs très particuliers où il y a juste ce qu'il faut. Le plus important c'est la granulométrie, c'est-à-dire la taille du gravier qu'il y a dans le fond. De façon à ce que les truites puissent faire un nid où la femelle vient pondre et puis il y a le mâle qui vient féconder les œufs dessus. Et les alevins vont se développer dans cette espèce de lit de gravier qui est en permanence nettoyé par la rivière et par une eau de qualité. Or, le Manet, c'est des ruisseaux qui sortent simplement des prairies, donc il y a très peu de pollution, même d'origine agricole, si bien que on peut encore avoir des frayères naturelles. Quoi.
Et quand tu dis que les loutres, elles se chargent des truites relâchées, c'est parce qu'elles n'ont pas le même comportement, elles sont un peu débiles.
C'est plus facile. Hein. Les pêcheurs, ils ont bien compris aussi. Hein. Je veux dire, quand tu viens à l'ouverture, surtout comme cette année où il y a vraiment beaucoup d'eau, c'est des truites d'élevage. Donc elles vont chercher ce qu'on appelle une bassine, c'est-à-dire un endroit un peu plus calme. Et puis là, tu sors ce que tu veux. Hein. Et les loutres, elles sont au moins aussi fortes que les pêcheurs pour ça, pour découvrir l'endroit où viennent se réfugier les pauvres truites arc-en-ciel qui ont été remises la veille. Quoi, hein. Mais c'est bien, ça les nourrit un peu.
Et toi, tu en as vu des loutres en réel,
Dans cette rivière-là, j'en ai jamais vu. J'en ai vu dans la Colle, Mais ici, on peut voir relativement facilement des épreintes, c'est-à-dire des crottes de loutres qui sont sur les roches en général. Et puis je pense qu'il faudrait regarder, mais moi j'ai vu, ce que j'ai vu très bien ici, c'est quand l'eau descend, on voit les traces sous le pont là. Parce que les loutres, elles adorent venir s'échouer vers les ponts comme ça. Là, j'en ai vu des belles, des printes, c'était juste un peu plus haut, là. La loutre, ça fait partie des énigmes, on va dire, de l'évolution des espèces. Il y a 40 ans, en Dordogne, il y avait une population relictuelle sur le Colli, qui est un petit affluent de la Vézère. Hein. Ici, il n'y en avait plus du tout. Et puis, vraisemblablement, en relation avec l'explosion des écrevisses américaines, donc les espèces invasives n'ont pas que du mauvais. La loutre s'est développée à une vitesse folle et maintenant il y en a sur toutes les rivières. Hein. Avant-hier, on est allé faire une sortie là, avec Frédéric Chiche, là, qui est un des meilleurs mammologues de Dordogne. On est allé voir les traces de loutre sur le Boulou, la vallée du Boulou, qui est une petite vallée là, qui, dans le Périgord blanc, là, et c'était magnifique, on en a vu plein. Plein de traces, plein d'épreintes. À Bourdeil, sous le pont de Bourdeil, avec les étudiants, on a photographié les épreintes. Il y en a plein partout maintenant, vraiment. Hein. Mais c'est surtout pour la peau, hein, pour la peau qu'on les chassait. Et puis aussi parce que les Français ont toujours eu ce goût de la destruction de ce qu'ils considéraient comme des concurrents. On tue les renards à tour de bras pour ces mêmes raisons, parce qu'ils bouffent trois poules. On tue tout ce qui serait susceptible de gêner les hommes, ben, ça mérite d'être flingué. Et la loutre, elle en a vraiment fait les frais, quoi, par le piégeage notamment systématique. Quoi. Ben, c'est un animal magnifique. Hein. Il faut le voir une fois pour se rendre compte que c'est...
Et est-ce que c'est vraiment... elles se nourrissent de moules perlières parfois, apparemment,
ouais, à mon avis, je veux dire, elles préfèrent de loin les écrevisses ou le poisson, qui est quand même plus facile à ouvrir. Hein. Parce que ouvrir une moule perlière, il faut être costaud quand même. Hein. Alors peut-être qu'il y a des cas de prédation, mais ça, j'en doute un peu. Hein.
Il y a aussi des gros animaux, ici, du gros gibier.
En pagaille, là. Il suffit de remonter, dès qu'on rentre un petit peu dans le bois, un peu plus haut, là, chevreuil, sanglier, à tour de bras. Hein. Là, c'est vraiment un endroit, pas que dans toute la forêt de la Dordogne, mais par ici, comme c'est assez sauvage, comme c'est très peu habité, il y a énormément de bestioles. Hein. Au niveau des oiseaux, s'il y a des choses intéressantes, il y a des cincles qui nichent, le cincle plongeur, il y a des oiseaux comme ça qui sont dans ces milieux propres et un peu sauvages, quoi. Hein. L'explosion des populations de sangliers, de chevreuils et aujourd'hui de cerfs, puisque aujourd'hui c'est le cerf qui pose le plus de problèmes, notamment aux forestiers, c'est assez récent. Hein. C'est complètement lié à la déprise agricole. C'est-à-dire que dans des territoires qui ne sont plus cultivés, où il n'y a plus de monde, qui se promènent, le point de départ a été notamment la tempête de 2000, hein, où là il y a eu des milliers d'hectares qui ont été complètement rendus inaccessibles par les embâcles, par les arbres tombés. Et là, ben, ça a marché du feu de Dieu. Alors le chevreuil, il est très opportuniste. Lui, ce qu'il adore, c'est les champs de maïs. Donc le moindre moment qu'il y a du maïs, il va habiter dedans. Mais des chevreuils, il y en a énormément. Et maintenant, c'est les grands cervidés, le cerf qui se développe. Hein.
Avec beaucoup de chasseurs,
De moins en moins de chasseurs.
Ah oui.
Et c'est un des problèmes, hein, c'est-à-dire que la pression, parce que les chasseurs vieillissent, ils sont, même s'il y a un petit renouveau, ils sont de moins en moins nombreux. Et résultat des courses, ça devient impossible d'enrayer le développement du sanglier, par exemple. Avec les dégâts de gibier, avec tout ce qui se passe autour, quoi. Les dégâts aux cultures, quoi.
D'où l'idée que le loup revienne aussi, quoi.
Ouais, mais de toute façon,
je pense
qu'il est là, hein.
Oui.
Ben, il y en a eu un qui a été tué en Dordogne, on le sait maintenant.
Mais c'est des loups qui passent, juste, hein. Je crois que c'est pas des loups qui s'arrêtent. Je sais pas.
On connaît mal, hein, on connaît mal le coup. comportement du loup, mais maintenant je crois qu'il n'y a plus un seul département où on n'a pas vu de loup. C'est quelque chose dont on parle peu. Bon, d'abord c'est un animal super discret. Moi je l'ai pas encore vu, mais j'en ai vu sa présence bien dans des départements comme la Lozère. Là on sait qu'en Dordogne il y en a un qui est arrivé. Donc ça veut dire que forcément il y en a. Hein. Après, la question du rôle du loup dans le rééquilibrage d'une nature complètement déboussolée par toutes les activités humaines, alors ça, c'est encore un autre fantasme. Hein. Mm. Dans les belles storyboards. Hein.
Mm. Et puis, il y a un paquet de flottes en ce moment.
Ouais. Il y a même trop d'eau. Moi, j'attends un peu pour pêcher parce que là, c'est pas facile. On n'arrive pas à la lire.
Ah oui, on voit pas.
On voit pas du tout où peuvent être les truites. Quoi.
Oui.
Quand il faudrait qu'il y ait 20 cm de moins là.
Oui, du coup, là, tu n'avais pas pris ton matos.
Non, parce que ça fait un moment que j'attends. Je guette la côte en bas de chez moi et je vois bien quand c'est pêchable ou pas. Et là, c'est pas très intéressant.
Tu les manges quand même ou tu les relâches après?
Ça dépend. Je garde toujours les grosses parce que une grosse truite, elle a. Un effet de prédation sur les petites truites. Ce qu'il faut, c'est sortir les grosses pour avoir toujours en permanence une population avec une pyramide des âges à peu près régulière. Quoi. Et une grosse truite, elle fait énormément de dégâts.
C'est-à-dire, elle bouffe les autres, non?
Ouais, ouais.
Elle bouffe les autres,
ah, ouais, les jeunes, ouais. Les jeunes truites. Donc, pour avoir une rivière avec une belle densité, ce qui est important, hein, c'est notamment pour la moule perlière. C'est ça qui est rigolo, puisque c'est la truite fario, c'est un des vecteurs de la reproduction de la moule perlière. Et on s'est rendu compte que les petites truites faisaient aussi leur travail par rapport à la reproduction de la moule perlière. Par contre, si on veut avoir une bonne densité, ben on a intérêt à bouffer les plus grosses. En plus, c'est pas plus mal.
C'est sûr.
Mais des farios, j'en garde, c'est rare que j'en garde quand même, parce que sur ce parcours-là, là, l'année dernière, j'ai dû en garder une de 35, 38, voilà, des beaux poissons, quoi. Et autrement, en général, les farios, je les remets.
Et les autres poissons, il n'y a rien d'autre à manger?
Ici, il y a très peu d'autres poissons, ce qui est un bon signe, hein, parce que...
Ah bon?
Oui, parce que les rivières à truites, normalement, il y a comme autres poissons, il peut y avoir des vairons. Là, moi, j'en connais très peu. J'en ai vu un petit peu. Un peu plus haut, ça m'est arrivé de prendre des perches. Mais c'est plutôt pas bon signe. C'est-à-dire que ça veut dire que la rivière est ralentie, elle se réchauffe. Et donc, elle est en train de passer à ce qu'on appelle, nous, la deuxième catégorie piscicole, c'est-à-dire les rivières plus calmes, avec des chevennes, avec des espèces comme ça. Une bonne rivière à truite, en gros, c'est vraiment le poisson... dominant avec des chabots. Alors là, j'en ai vu des petits chabots. C'est un petit poisson de fond de gravière et qui est un indicateur d'une très bonne qualité des eaux. Quoi. Non, c'est un écosystème. La rivière à truite, c'est un écosystème dans lequel il n'y a pas de carpe, il n'y a pas d'autre chose. Quoi.
C'est ça ?
Alors, c'est pas les étangs qui ne sont pas nettoyés, c'est simplement la présence d'étangs. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile d'ailleurs à faire comprendre, c'est un étang, ça réchauffe les eaux. Forcément. Alors l'étang, le barrage de Mialet, ça fait une surface de flotte assez considérable, calme, exposée au soleil, donc forcément ça augmente la température de l'eau, ce qui n'est pas bon pour la truite, et ce qui n'est pas bon pour la moule perlière non plus. Ça, c'est la première des conséquences. La deuxième, c'est qu'en période d'étiage, c'est-à-dire quand ça manque de flotte, on remplit le barrage de Mialet. Et donc ça accélère encore l'étiage. C'est-à-dire qu'on pompe la flotte qui devrait couler régulièrement dans les rivières. Mais où c'est encore plus drôle, ou plutôt dramatique, c'est qu'en période comme actuellement où il y a trop de flotte, le barrage, il est plein, lui. Donc, il se comporte comme un parking. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau, paf, repart. Et donc ça ne fait pas du tout de zones qui peuvent absorber un surplus de flotte. Résultat des courses, si on regarde les effets d'un étang sur le cours d'une rivière, c'est que simplement ça accentue les sécheresses et ça accentue les crues. Donc c'est complètement contre-productif pour l'équilibre de la rivière. Mmh. Et le problème, c'est que la réserve, elle se remplit quand on en manque,
oui, voilà.
et elle déborde quand on n'en a plus besoin. Et donc, c'est à moins d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse, mais qui n'est pas celle qui est faite à Mialet, parce que celle de Mialet, elle est faite pour permettre aux irrigants de continuer d'irriguer. C'est quand même la première des fonctions du barrage de Mialet. Par contre, la rivière, elle ramasse. À chaque fois qu'il y a des lâchers d'eau, au moment notamment de la fraie des poissons, les mouvements d'eau, c'est ce qu'il y a de pire. Parce que des œufs vont se retrouver à sec, ou au contraire, un courant va les emporter parce qu'on a augmenté brutalement le niveau de l'eau. Donc ça veut dire que toute modification brutale du niveau d'une rivière, sur plan écologique, c'est une catastrophe.
Parce que les lâchers d'eau, du coup, ne tiennent pas en compte ces moyens de
traillage Non, le seul intérêt pour eux, c'est effectivement de garantir un étiage, c'est-à-dire un niveau d'eau dans la rivière, de façon à ce qu'en aval, on puisse pomper pour irriguer. Le pire, alors ça fait plaisir aux loutres, mais moi j'ai assisté à l'arrivée de l'écrevisse de Louisiane dans le barrage de Mialet, mais c'était spectaculaire, quoi. Mais une explosion avec des milliards de petites écrevisses, une année qu'on a vu, il suffisait de soulever une pierre, il y en avait 20. Voilà, elle est arrivée pourquoi ? Parce que pareil, elle a été amenée, je ne sais pas trop comment, pas forcément par des pêcheurs, mais ça peut être par des animaux, ça peut être des pontes qui ont été baladées, et on se retrouve effectivement avec des explosions biologiques, alors soit de plantes, soit d'animaux invasifs, avec les conséquences que ça peut avoir. Là, moi, je suis persuadé que les perches que j'ai prises, moi, un peu plus haut, là, elles sont liées à ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que les perches arrivent. Mais ne serait-ce que le petit étang, là, qui est juste derrière, là. C'est pareil, le gars, il met ce qu'il veut, hein. Il se fait livrer des gardons, il se fait livrer des trucs. Dans le tas, il y a des carassins, dans le tas, il y a des trucs comme ça. Il balance ça, et puis à la première crue, ça passe dans la rivière. Et c'est comme ça que les espèces invasives se déplacent. Hein. Il n'y a plus un seul étang qui soit exempt de poisson-chat dans tout le nord d'Ordogne. Poisson-chat à l'étang de Saint-Estève, etc., c'est une vraie catastrophe. Et il n'y a pas moyen de s'en débarrasser. Hein.
C'est un plan d'eau baignable, ça, Saint-Estève.
Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fait une fois la pêche des pontes de poisson-chat au printemps, mais c'est complètement illusoire, quoi dire. Même si on a l'impression d'en enlever des milliers, on enlève autant, quoi. Et donc c'est absolument impossible de les détruire, sauf à assécher complètement l'étang pendant 2 ans. Quoi. Donc ça veut dire que quand le mal est fait, bah, c'est pas facile de rattraper les choses. Quoi. Et là, la présence d'étangs le long des cours d'eau, c'est catastrophique pour le cours d'eau. Hein. Toujours. Mmh. Hein.
Donc toi, tu as suivi un peu le truc des life pour les moules de près,
ouais, ouais.
Et t'as une opinion un peu tranchée là-dessus ou tu...
Moi, j'ai pas d'opinion tranchée parce que c'est un problème compliqué. Hein. C'est simplement un problème de notre relation à la nature. Moi, mon cheval de bataille, c'est plutôt oublier la biodiversité et revenir à la nature. La biodiversité, donc par exemple, voilà, tout l'argent et les moyens qu'on peut mettre à la disposition d'une espèce au prétexte que cette espèce est rare, ça peut cacher complètement la disparition de la nature, c'est-à-dire la disparition du reste du naturel. Or, pour la moule perlière, ce que je pense, moi, d'abord, c'est bien de s'être rendu compte qu'il y en avait, que ça montre quand même qu'on a un grand désintérêt pour la nature, puisqu'il y a très peu de gens qui savent qu'il y a cette espèce-là. La dimension patrimoniale de la moule perlière, elle est plus liée au tableau de Marine Médicis avec sa robe couverte de perles que de la moule elle-même, que personne ne connaît, personne n'a jamais vu. On a un rapport un peu bizarre à la nature. Donc là, on a découvert qu'il y avait cette espèce-là, donc ça déclenche des financements européens considérables, etc. Et puis, la même année, on découvre avec ce qu'on appelle le suivi temporaire des oiseaux communs, que 50% des effectifs d'oiseaux communs ont disparu. Donc on va se battre pour la moule perlière, très bien, moi j'ai rien contre, Et en même temps, c'est pas ça. C'est la totalité de la nature qui est en train de disparaître. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce que les Français appellent très injustement la nature ordinaire. La nature, c'est toujours extraordinaire. Il y a une... Une historienne ethnologue qui est venue faire une conférence que j'aime beaucoup, qui s'appelle Valérie Chansigaud, et qui a écrit un livre qui vient de sortir qui s'appelle Les Français et la nature, et où elle analyse bien que culturellement il y a un vrai problème des Français avec la nature, en fait de profond désintérêt pour une nature ordinaire. Il n'y a que l'extraordinaire qui les intéresse, d'où le programme Life, le programme sur lequel on démarre. Mais par contre, moi je le vois avec mes étudiants, les petites anémones blanches, là, l'anémone Sylvie, pas beaucoup de gens savent ce que c'est. L'autre jour, j'aurais montré des fritillaires pintades, une plante absolument magnifique, etc. Ils l'ont tous découvert, alors que pour moi, c'est des choses qui méritent vraiment notre attention. Quoi. Mais les Français ne sont pas très branchés nature. Il y a une vraie différence, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert avec elle, il y a une vraie différence entre les Anglais, les Allemands, dans le rapport à la nature. Nous, ça ne nous intéresse que très très peu.
Oui, où ça se cristallise sur les deux ours qui vont lâcher
exactement,
là, au mois de septembre. Ils vont parler de ça pendant 6 mois.
Puis l'histoire des ours, elle est très française. Je veux dire, ours en ailleurs, Espagne, en Italie, il y en a. On n'en fait pas tout un pataquès.
Ça marche très bien.
L'histoire de la loutre que je vous racontais tout à l'heure, elle est caractéristique. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on a presque réussi à éradiquer la loutre de Dordogne? Qu'est-ce qu'elle nous avait fait? Elle nous avait piqué 3 poissons dans une pêcherie? Voilà, là il y a un vrai problème. Quoi. Mais moi, je pense que c'est parce qu'il y a une vraie méconnaissance et un vrai inintérêt profond pour la nature. Toutes les polémiques liées à la nature, c'est pas pour la nature. C'est toujours une question politique annexe, c'est toujours une question de représentation, des rapports avec l'animal, par exemple. Mais ce n'est pas la question de la nature. La nature intéresse peu les gens, en France en tout cas. Et le résultat, il est là. C'est que, en termes de remise en état écologique, on est nul, quoi. On fait souvent des grosses erreurs. Hein. Et le simple fait de s'y intéresser, ça ne suffit pas à intéresser ni les populations ni les élus. Hein. C'est un vrai problème. Hein. En ce moment, moi, je suis en train d'essayer de faire passer un domaine de 70 hectares, à peu près à côté de Périgueux, pour lui donner un statut de protection, soit réserve naturelle régionale, soit espace naturel sensible, etc. Et il faut que je fasse des pieds et des mains, parce que dans cet espace-là, il n'y a pas d'espèces remarquables. On peut. Et on me dit, ça ne suffit pas... Nous, ce qu'on veut, c'est protéger un truc, on est prêt à... Non. Mais la nature dite ordinaire, ça n'intéresse personne. Et ça, c'est un drôle de truc, quoi. Les grands descripteurs de la nature ne sont pas français. Et les quelques grands personnages de la littérature naturaliste, et ça, Valérie Chansigaud en parle très bien, notamment des gens comme Buffon. Buffon avait horreur de la nature. Lui, il disséquait, il dessinait, il décrivait, mais dans son labo, quoi. Mais aller sur le terrain, ça ne l'intéressait absolument pas, quoi. Quelques contre-exemples, comme l'entomologiste Fabre, ou des gens comme ça. Mais en dehors de ça, très peu d'intérêt. C'est dommage, hein. C'est dommage. Puis en plus, mon boulot, moi, c'est d'essayer d'intéresser les gens à la nature, donc. Je me rends compte que c'est pas facile. Souvent, moi, les gens que j'amène, ils sont très déçus. Ils partent avec plein d'espoir, avec des représentations un peu de gens qui vont dans les zoos, quoi. Pour arriver à les faire s'arrêter, regarder une fleur, regarder un insecte, regarder une empreinte, etc., c'est pas simple, hein, de développer ça. C'est-à-dire simplement... se sentir extérieur à quelque chose et puis le respecter quand même, quoi. On aime mieux les jardins, qu'on maîtrise mieux. Mais le sauvage, en fait, c'est la question du sauvage qui est au cœur de... Le sauvage dérange. Le sauvage dérange et n'intéresse pas, quoi. C'est sale. C'est aussi la question du propre et du sale. C'est-à-dire que les termes ne manquent pas, hein, les friches. Toutes ces choses-là font qu'on a l'impression de laisser du terrain, quoi. De perdre du terrain.
Ouais, il y a un côté un peu la poubelle, quoi.
Ouais, c'est la poubelle et puis c'est le truc qui est en train de... qui reprend ses droits sur la civilisation. Et quelque part, ça nous dérange, quoi. Les effets de la déprise agricole, par exemple, c'est assez déprimant, hein, pour plein de gens, de voir qu'une prairie se referme. Alors les écologues adorent ça, la fermeture des paysages. Rien que le terme est terrifiant, quoi. Et pourtant, la fermeture des paysages, c'est la dynamique à peu près normale de n'importe quel espace naturel. En France, le 90% du territoire, sans activité humaine, ça serait la forêt. Alors on nous dit, ouais, mais il y a perte de biodiversité. Ouais, il y a perte de biodiversité, mais il y a gain de nature. Parce que justement, la forêt, c'est la nature. Et donc c'est très ambigu, hein, cette histoire de diversité biologique. Les écologues, ils ont que ça à la bouche. C'est l'important, c'est la diversité. Non, la diversité à quel prix? La diversité, elle est de quelle origine? La diversité, elle est d'origine humaine, anthropique, depuis le 11e siècle, quoi. Et le fait que cette diversité liée à l'activité humaine disparaisse, ça inquiète tout le monde. Faut peut-être se poser la question de la disparition de l'activité humaine, et notamment de l'agriculture. Mais c'est moins facile à régler comme problème.
C'est moins sexy à communiquer, quoi.
Ah oui, c'est vrai, absolument. La diversité souterraine, enfin, ce qu'on appelle la pédofaune, hein, elle est bien supérieure à la diversité du dessus. Il n'y a pas de comparaison. Hein. Un mètre carré de sol forestier, si on commence à compter les différentes espèces, on va en trouver 10 fois plus que dans la forêt elle-même. Hein. Et donc la biodiversité, si on part sur cette idée-là, on va découvrir que la flore intestinale d'un mec qui ne mange pas trop d'antibiotiques, il a une biodiversité bien supérieure à la forêt d'à côté. Hein. Donc voilà, il y a un côté un peu absurde dans ces idées-là, alors que l'idée de nature, elle a un sens. Elle a un sens. C'est la non-intervention humaine, ça c'est quelque chose. Hein. Voilà, un énorme tronc d'arbre qui se couche et qui pourrit sur place, ce qui est un non-sens pour plein de gens. Hein. En gros, on a l'impression de perdre quelque chose, quoi. C'est une valeur de naturalité qui est extraordinaire. Hein. Bon, les histoires de rapport à la nature dans les rivières, par exemple, il y a un truc qui est rigolo, dans la gestion de la truite. Tout à l'heure, je vous disais que le plus efficace, c'est d'arriver à remettre en état une frayère. C'est extrêmement difficile à faire comprendre à un technicien de rivière. Parce qu'il va, comment il va justifier son salaire, lui ? Je veux dire, là, on attrape la truite avec une pêche électrique, on envoie un bout de nageoire ou une écaille pour avoir son génotype, pour vérifier que c'est bien une truite de souche de la Drône. Ensuite, cette truite-là, on va la conserver jusqu'à ce qu'elle ponde, on va récupérer les œufs. C'est un boulot de fou. Ça peut être fait simplement en nettoyant un peu le manoeuvre. Et si on arrive à avoir une frayère naturelle, l'efficacité de cette frayère naturelle va être 100 fois plus grande que tout ce travail qui est fait à Brantôme, hein, de pisciculture, de récupérer les œufs, de les relâcher, etc. Mais comment on justifie le salaire du technicien de rivière, là ? C'est compliqué. Donc voilà, c'est pas... On ne supporte pas qu'on paye des gens à regarder la nature et à essayer de la comprendre et comment elle fonctionne. Pourtant, économiquement, on y gagnerait énormément. On a un, un, un gars, je viens de lire un de ses articles, là, c'est Louis Espinassous, qui en parle très bien, qui est un des animateurs nature phare là, du sud-ouest de la France. Il en parle très bien. Il parle du droit des hommes à avoir un contact avec la nature, et notamment au niveau éducatif des enfants, etc. C'est-à-dire que ça devrait être respecté. C'est-à-dire qu'on devrait faire en sorte que tout le monde ait la possibilité, à un moment donné, d'avoir une relation à la nature. Ce que je vais avoir dimanche prochain quand je vais aller remonter la rivière. Voilà. Ça, c'est des moments qui sont extrêmement forts et puis qui sont, à mon avis, très équilibrants. Et ça, c'est... Mais ça se perd beaucoup. Il y a Louis Espinassous, il dit un truc rigolo, il dit depuis une quinzaine d'années, puisque lui il amène des mômes depuis très longtemps, hein, c'est vraiment un gars de l'éducation populaire, et tout ça. Il dit, ben voilà, il a vu arriver les générations de mômes qui n'osent plus pisser dans la nature. Et ben on en est là. Et donc là, il y a vraiment un rapport complètement dévié, complètement perverti à la nature, qui devient urgent de rétablir. Mais c'est un vrai boulot maintenant. C'est un vrai boulot.